Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de Métropolez-vous avec un nouveau numéro de notre cycle de découverte des communes de Toulouse Métropole. Il y en a 37 à ce jour et nous avons déjà exploré une douzaine d'entre elles. Une commune, c'est une histoire, un patrimoine, une économie et un territoire. Ce n'est pas seulement ça, pourra-t-on me répondre à bon droit, mais ces quatre domaines constituent les angles que nous avons choisis pour mieux faire connaissance avec celle de la métropole. Elles sont de taille variable, elles ont leurs particularités et même leurs singularités, mais elles ont aussi un certain nombre de points communs, comme nous avons pu le constater depuis que cette série d'émissions a commencé. L'Onaguet, qui a fait l'objet du numéro précédent, en est un bel exemple avec son château et l'épopée de l'architecte briquetier Auguste Virebin. Aujourd'hui, c'est au tour de Colomiers, la deuxième plus grande commune de Haute-Garonne et donc de la métropole toulousaine par sa population, qui s'approche d'année en année des 40 000 habitants qu'elle semble même avoir dépassé. C'est une conséquence de son histoire récente, parce qu'il n'en a pas toujours été ainsi, vous vous en doutez. Je vous propose d'en savoir plus avec cette émission consacrée à l'histoire, au patrimoine, à l'économie et au territoire de la commune de Colomiers. Et qui mieux qu'une guide conférencière proposant des visites commentées dans cette commune peut nous servir de guide à la découverte de Colomiers ? C'est une des activités de Céline Gazel, notre invitée du jour, que je salue et remercie d'avoir répondu à notre invitation. Guide conférencière, vous l'êtes pour l'Office de tourisme de Toulouse Métropole, l'agence d'attractivité, comme je crois qu'il faut dire. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre en charge celle de Colomiers ? Est-ce que c'est une commune que vous connaissez pour des raisons personnelles, voire familiales ? Ou est-ce que tout simplement vous y avez habité quelque temps ? Ou rien de tout ça ?
Eh bien, pas du tout. Tout simplement, l'Office de tourisme est devenu Office de tourisme Toulouse Métropole, donc on s'est mis aussi à chercher des activités culturelles de guidage à faire autour de Toulouse, donc sur la métropole. On a eu des propositions, j'ai travaillé sur l'Onaguet notamment, et j'ai choisi de participer à la préparation de la visite de Colomiers, tout simplement parce que j'y trouvais un intérêt vu le développement de cette ville assez exponentielle.
Comment on fait pour alimenter ces visites guidées? Il faut avoir des anecdotes, peut-être des choses originales à transmettre aux visiteurs. Est-ce que vous vous êtes appuyé sur certains documents? Vous avez fait des recherches?
Alors, tout a commencé en fait d'abord avec un partenariat entre l'Office de tourisme et la ville de Colomiers, savoir s'ils étaient d'accord de nous suivre dans ce projet. On a été accueillis très généreusement par des personnes de la municipalité œuvrant au Pavillon Blanc, qui est le lieu de la culture columérine. Et ils nous ont présenté la ville avec un parcours idéal à nous ensuite de travailler. Et en plus, ils nous ont offert un ouvrage qui est la Bible en fait de l'histoire de Colomiers. Ça s'appelle Colomiers, une histoire urbaine et solidaire, écrit en 2012 par Yann Gachet, et donc j'ai épuisé un petit peu toutes mes connaissances sur le développement de la ville dans cet ouvrage.
Ouvrage récent, donc paru en 2012.
Exactement.
Donc on peut imaginer extrêmement complet. Merci de nous avoir donné ces quelques détails et ces précisions sur les visites guidées que vous proposez à Colomiers. Nous en donnerons beaucoup plus d'autres tout à l'heure lorsque nous allons nous plonger dans l'histoire proprement dite de Colomiers. Dans l'immédiat, il est temps de nous plonger dans l'actualité métropolitaine. Toujours grâce à Corinne Saint-Félix et son flash d'information hebdomadaire, Métropolitaine. Voulez-vous l'actu? Et nous commençons avec une information qui va intéresser les habitants du nord de la métropole et ceux qui se déplacent souvent dans ce coin. Le projet du boulevard urbain nord, le BUN, relancé après avoir été annulé.
Et oui, mardi, il y a déjà une semaine, Toulouse Métropole a lancé un marché public pour permettre de relancer le projet de boulevard urbain nord annulé par le Conseil d'État en janvier tel qu'il avait été imaginé depuis le début des années 2010. Ce boulevard urbain multimodal devait sur une longueur de 13 km, reliée Toulouse à l'Onaguet à l'horizon 2025, puis à Castelginest, Gratentour et Bruguière à l'horizon 2030. La cour d'appel de Bordeaux et le Conseil d'État ne s'étaient pas prononcés sur la pertinence du projet et son efficience, mais sur le processus administratif du projet. Ils avaient estimé que l'avis de l'autorité environnementale avait été donné par les services de l'État, également décisionnaires du projet. Toulouse Métropole a donc relancé le projet via la publication d'un appel d'offres.
La deuxième information de ce flash concerne ceux qui ne savent pas quoi faire de leurs appareils électriques usagés. Autant dire beaucoup d'entre nous, de grâce, ne les jetez plus n'importe comment, des solutions existent.
Effectivement, la mairie de Toulouse, en partenariat avec Écosystème, propose régulièrement, le samedi, des collectes solidaires dans différents quartiers de la ville pour recueillir des appareils électriques hors d'usage ou aussi en état de marche. Ces collectes permettent aux appareils de connaître une seconde vie tout en protégeant l'environnement. Elles favorisent aussi l'emploi de proximité et l'insertion. Pour y participer, vous pouvez apporter vos appareils électriques en état de marche ou hors d'usage. Plusieurs catégories d'objets peuvent être amenées, des petits appareils, mixeurs, aspirateurs, phares à repasser ou téléphones, du matériel informatique comme les ordinateurs, les imprimantes ou les scanners, le gros électroménager, frigo, cuisinière, machine à laver et enfin les écrans, téléviseurs et moniteurs. Les rendez-vous sont programmés les samedis, le prochain a lieu le samedi 21 mars sur le parvis de l'église Saint-Aubin et place Palais de Justice. En 2018, plus de 18 953 kilos d'anciens équipements électriques ont été rapportés par 1457 habitants sur les 28 collectes solidaires organisées.
Et puis nous terminons avec une information culturelle. Toulouse Métropole lance un appel à candidature en direction des auteurs et artistes.
Objectif, constituer des tandems auteurs-artistes pour 4 bourses de création littéraire et art avec le concours du Marathon des mots, le Festival du Livre Jeunesse Occitanie, le Festival BD de Colomiers et le soutien de la DRAC Occitanie. Vous pouvez télécharger les appels à candidature au format PDF sur le site internet de Toulouse Métropole. Parmi les bourses attribuées, une bourse littérature internationale et art, une bourse littérature générale et art ou concert littéraire sur la thématique pop révolution, pop culture, une bourse littérature jeunesse et art et pour terminer une bourse bande dessinée et art en lien cette fois avec le Festival BD de Colomiers. Date limite de dépôt de candidature le vendredi 27 mars à 18h.
Voilà, c'était le flash d'information hebdomadaire de Corinne Saint-Félix. Alors Céline Gazel, je ne sais pas si vous souhaitez réagir à une des informations de ce flash, il y en a une qui a retenu votre attention. Peut-être tout de même cette bourse pour des artistes, des auteurs. Il y en a une qui concerne le festival de BD de Colomiers.
Oui, qui est un festival assez important, hein, qui se déroule dans le hall de Comminges en général, en plein centre-ville de Colomiers, et qui est en lien avec le pavillon blanc où, bien sûr, la BD est à l'honneur. Il y a aussi souvent des ateliers pour petits et grands. Et cette année, le festival se déroulera donc du 13 au 20 novembre.
C'est toujours à l'automne.
Oui.
Et c'est un festival qui est déjà très ancien. Alors, on parle souvent du festival de BD d'Angoulême, évidemment.
Oui, mais on a le nôtre aussi.
Celui de Colomiers, voilà. Oui, je sais qu'il est vraiment, il draine beaucoup de visiteurs et de nombreux auteurs.
Oui, et ce n'est pas le seul festival qu'il y a à Colomiers, puisque l'art urbain est à l'honneur avec le festival Wikipolis, dédié à la créativité, à l'innovation dans l'art, etc. Il y a aussi un autre festival qui s'appelle Un été, un quartier, où on met en valeur chaque été un quartier avec différents événements. Et enfin, là, très bientôt, à la fin du mois, le 28 mars, un événement, on va dire mondial, a lieu à Colomiers, Nothing to Lose, qui est la plus grande battle de danse hip-hop all styles du monde. On va réunir les 24 meilleurs danseurs venant des quatre coins du monde.
Et je vois qu'à Colomiers se passe beaucoup de choses dans ce qu'on appelle les cultures urbaines. Mais merci pour toutes ces informations complémentaires. Retour maintenant au thème principal de cette émission, l'histoire, le patrimoine, l'économie et le territoire de la commune de Colomiers.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
La suite de Métropole et vous avec notre invitée Céline Gazel, guide conférencière pour l'Office de tourisme de Toulouse Métropole. Elle anime des visites commentées de Colomiers et à ce titre, j'imagine que vous avez fait des recherches sur l'étymologie du nom Colomiers et sur son ou ses origines, il y en a peut-être plusieurs. Alors, à quelle époque la commune le prend-elle et pour quelle raison ? Alors, je crois qu'il y a une histoire de pigeons, de colombidés derrière tout ça.
Complètement, puisque le nom de Colomiers renvoie au colombier, en fait, qui est la bâtisse qui récupère la fiente de pigeons. Et en latin, c'est colombarium, qui veut dire pigeonnier, tout simplement, donc l'édifice qui sert à l'abri aux pigeons. Il faut savoir qu'à Colomiers, il y en a un nombre assez important, ces pigeons. Les pigeonniers se sont multipliés dès le XIe siècle, donc sur de grandes propriétés, et ce qui était une manière pour les notables d'asseoir leur prestige social, tout en élevant des oiseaux qui fournissent de la viande, mais également de la colombine fiante qui constitue
de l'engrais,
précieux engrais, ouais. Puisqu'on est sur une terre agricole aux portes de Toulouse. Et donc c'est la multiplication de ces colombiers ou pigeonniers qui justifie l'appellation de terre des pigeonniers. Il reste 19 pigeonniers aujourd'hui et c'est ce qui va donner le nom à cette ville de Colombiers.
Remontons maintenant un petit peu dans le temps, même quand je dis un petit peu, c'est même beaucoup. Les premières traces de communautés humaines sur les territoires actuels de Colombiers, je crois, sont très anciennes.
Et oui, effectivement, on a des vestiges de la préhistoire et de l'Antiquité, mais quand même de la préhistoire sur ce territoire d'un peu plus de 2000 hectares qui se situe donc sur les terrasses de Garonne. Les traces les plus anciennes remontent au Paléolithique et on a retrouvé des outils de pierre sur le site de Anjaca. Ce qui atteste du coup de la présence d'un peuplement sédentaire actif. Ces occupations le long de l'Ossonel, la rivière, sont autant de l'aqueléen moyen classique il y a plus de 200 000 ans.
Ce qu'on appelle le paléolithique inférieur.
Exactement. Et donc le fait de trouver ces objets, ces outils à proximité de la rivière donc, montre une occupation à ces endroits-là. Et la raison pour laquelle ils s'installent là, c'est parce que ça offre un point de vue intéressant, un accès aux sources, un accès aux galets. Et donc ils sont autant d'atouts, ayant sans doute incité les préhistoriques à privilégier l'occupation des rebords des terrasses. Puis ça procure l'eau aussi. Ouais.
Alors ces objets, en tout cas certains d'entre eux, sont conservés aujourd'hui
au muséum de Toulouse, muséum d'histoire naturelle, effectivement.
Voilà, donc il y a des objets trouvés à Colombiers, oui, qu'on peut admirer, découvrir au muséum d'histoire naturelle de Toulouse. On avance dans le temps, époque gallo-romaine. Alors là aussi, des choses intéressantes.
Bah, ça commence à être un petit peu plus consistant, hein, comme trouvailles. Ce sont des possessions des Volques Tectosages qui vont être intégrées à la province romaine de Narbonnaise à la fin du 2e siècle avant Jésus-Christ. Il n'y a pas vraiment de village, mais des exploitations agricoles, ce qu'on va appeler des villas. Donc situées à proximité de la voie romaine qui va relier Toulouse à Auch, donc ce qui est la situation de Colomiers. Et ce sont donc des exploitations agricoles qui vont vivre de la vigne, de l'élevage diversifié, d'arbres fruitiers, des cultures vivrières, de légumineuses et de céréales. Il y a plusieurs villas gallo-romaines qui ont été mises au jour, notamment celle de Gramont qui a été fouillée et qui révèle la présence d'un hypocauste, un système de chauffage.
Déjà à l'époque.
Exactement.
Donc je précise pour ceux qui ne sauraient pas, les Volques Tectosages est une peuplade gauloise.
Tout à fait.
On arrive au Moyen-Âge, alors là comme très souvent, avant l'an 1000 on n'a pas grand chose à dire, pas grand chose à partager.
Effectivement, ça,
avec nos auditeurs.
Faudra attendre le Moyen-Âge pour voir un véritable village se développer.
Après l'an 1000, donc, c'est à ce moment-là à peu près.
Oui, on est au 11e siècle, quand on commence à entendre ou lire le terme de Columbario, donc l'ancien nom de Colomiers, qui est mentionné pour la première fois au 11e siècle dans un cartulaire de Saint-Cernin. Et c'est la famille Berthegave qui possède là des domaines et une chapelle dont elle fait don à l'abbaye lors de l'appel à la première croisade. Ainsi, l'abbaye va exploiter ses terres et permet à des hommes de s'installer. Un peu plus tard, donc on est en 1200, l'abbaye Saint-Cernin va revendre ses terres et ses droits seigneuriaux, sauf l'église, à un capitoule toulousain du nom de Durand, qui est un bourgeois anobli puisqu'il est devenu capitoule. Et ses héritiers auront donc Colomiers en co-seigneurie, ce sera une des particularités de Colomiers, avec le comte de Toulouse, et sera partagé entre plusieurs familles. Puis il y aura deux nouvelles familles qui vont s'ajouter. On a compté jusqu'à une vingtaine de co-seigneurs, donc souvent des bourgeois toulousains, qui sont venus asseoir leur prestige social en devenant propriétaires d'une terre noble. Et puis il faut savoir aussi que le territoire de Colomiers est traversé par les pèlerins qui vont vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc on voit progressivement un village qui se structure sur deux collines, de part et d'autre du Rival, qui est le nom de la rivière. Au sud, le cimetière et l'église. Et sur l'autre colline au nord, il y a un fort dont la garde est partagée entre les co-seigneurs et les habitants.
Alors les habitants, entre les habitants et les seigneurs, il va y avoir ce qu'on appelle les consuls.
Oui, alors
à quelle époque ça survient?
Ça nous ramène à 1271. Alors, c'est exactement 1274, les consuls. Mais ça vient de 1271, qui est l'année de rattachement du comté de Toulouse à la France. À la mort d'Alphonse de Poitiers, dernier comte de Toulouse, donc cette année-là, Colomiers reçoit une charte de coutume, qui est un genre de règlement intérieur, qui donne à la ville quatre consuls nommés par les co-seigneurs. Donc ces consuls, c'est comme les capitouls que nous avons à Toulouse. Ils sont chargés d'administrer la vie de la communauté, de représenter la population auprès des co-seigneurs. Les Capitouls de Toulouse aspiraient au titre envié de seigneur de Colomiers où ils souhaitaient construire leur résidence secondaire. Donc on trouve souvent les Capitouls de Toulouse parmi ces... Ouais. Ces consuls.
C'était un signe extérieur de richesse, donnait un certain statut d'avoir sa maison secondaire, entre autres à Colomiers.
Et oui, et ça leur permettait d'exploiter des terres et d'avoir une résidence d'été où ils pouvaient y passer du bon temps.
Alors, pendant l'Ancien Régime, quelques événements notables. Alors, je crois qu'il y a eu, à Colomiers même, quelques tensions au moment des guerres de religion, donc 16e siècle.
Oui, effectivement, après la victoire d'Henri IV, la réorganisation politique et religieuse provoque des conflits. Alors le roi est à la recherche de fonds et de fidèles, et il va engager sa moitié de la seigneurie de Colomiers, puisqu'elle n'appartient plus au comte de Toulouse, mais pour moitié au roi de France. Donc il va engager la partie de sa seigneurie à un parlementaire toulousain fidèle, qui s'appelle Monsieur de Bousquet. Ce Monsieur de Bousquet veut avoir la préséance sur les autres co-seigneurs, d'où un long procès avec les Rabastens, qui étaient des co-seigneurs notables de Colomiers. On est dans ces années 1598 jusqu'en 1618, très long procès. Les travaux de reconstruction vont créer quelques querelles entre l'abbaye, la paroisse et les consuls. De plus, la communauté villageoise conteste à la fois les co-seigneurs et le roi sur les charges fiscales ou sur les réparations aux forts et aux clochers. Voilà, tous ces sujets qui amènent tous ces conflits entre ces différentes entités columérines.
Si on parle un peu du patrimoine, et je suppose que c'est à peu près à cette époque, donc 17e siècle, des bâtisses vont être construites. Qu'est-ce qu'on trouve à Colomiers ? Est-ce qu'il y a vraiment des bâtiments remarquables ?
Ben effectivement, on a à Colomiers un certain nombre de châteaux ou des vestiges de châteaux ou un portail de ci, de là, qui nous rappellent effectivement que ces riches bourgeois ou capitouls toulousains venaient investir les terres columérines pour exploiter la terre, pour avoir un château, une résidence, qu'ils vont embellir, agrandir en véritable manoir. Et on a l'exemple du château de Raspeau, dont il reste un portail, donc à proximité de la place Firmin-Ponce, donc on est vraiment dans le centre de Colomiers. Aussi dans le centre de Colomiers, alors c'est très contrasté parce qu'on est à côté d'immeubles fin 20e siècle et un château avec ses tours de tout autour. Ça s'appelle le château des Tourelles, qui est toujours une vaste demeure privée construite au 18e siècle. Et il a été la propriété d'Émile Calvé, un des maires de Colomiers, entre 1934 et 1945. Et ce château appartient toujours à la même famille. Et un autre château qui... sera connu pour d'autres faits. Le château de l'Armurier, qui est sur les hauteurs du quartier des Ramassiers. C'est un château qui appartenait pendant la Deuxième Guerre mondiale à la famille Massardi. Et une épouse des frères, René Massardi, n'était autre que la fille d'Eugène Montel. Et là, ça nous amène au maire de Colomiers qui va révolutionner la ville en termes d'urbanisation.
On va en reparler donc, voilà. D'Eugène Montel parce qu'il va jouer un rôle un peu plus tard là, donc, sous l'occupation. Avant, je voudrais qu'on parle de la Révolution française, on y arrive. Qu'est-ce qui se passe à Colomiers au moment de la Révolution française ? Est-ce qu'il y a des personnages, des personnalités qui s'illustrent, des faits qui sortent un peu de l'ordinaire ?
Alors il y a quelques événements quand même qui vont changer l'organisation de la ville. Faut savoir que jusqu'à la Révolution française, on parle de Colomiers comme d'un gros village de banlieue, dominé par ses grands propriétaires, ses co-seigneurs, majoritairement toulousains, qui possèdent la moitié des terres. Peu à peu, ils transforment leur métairie en véritable château d'agrément. Et la première conséquence de la Révolution est la disparition du système co-seigneurial. Le premier maire, s'apprête à sourire, sera Jean-Bernard Dupois, un coutelier résident à Toulouse, qui était lui-même co-seigneur. Comme oui. Ça, ne perd pas la face.
Oui. Il est bien retombé sur ses pattes, comme voilà. On dit.
Puis on a un autre fait notable quand même, qui peut-être est une des raisons du succès du développement de Colomiers aujourd'hui, c'est le refus du conseil municipal de Colomiers, qui vient d'être élu, de voir la ville intégrée au canton de Blagnac lors de la création du département de la Haute-Garonne et du nouveau découpage administratif. Le village restera donc dans le giron de Toulouse et les municipalités successives respecteront cette constante. C'est toujours le cas aujourd'hui.
Ce qui a permis de garder une certaine autonomie et ce qui explique que Colomiers n'ait pas été étouffé dans l'œuf au moment du développement de l'aéronautique.
Voilà,
il n'ait pu en prendre sa part.
Et de risquer de devenir une cité dortoir.
Après la Révolution française, une quinzaine d'années après, on arrive au Premier Empire. Alors là, il y a un personnage qui s'illustre pour plusieurs raisons. C'est François-Xavier Mescure de Lasplane. Qui est ce monsieur ?
Alors, il est maire de Colomiers de 1804 à 1815. Et alors, La particularité fait que son nom va être connu peut-être plus que les autres maires, tout simplement parce que à cette époque, l'administration des postes a une confusion régulièrement dans son courrier entre la ville de Coulommiers dans la Brie et Colomiers chez nous en Haute-Garonne. Ce qui fait qu'ils vont demander à ce qu'un nom soit ajouté à Colomiers. Et alors, le maire de Colomiers va y ajouter son propre nom.
En toute simplicité.
Et ça deviendra donc Colomiers-Lasplane.
Et ça va durer combien de temps, ça ?
Ça va durer jusqu'en 1954.
Ah oui, tout de même.
Un bon gros siècle.
Donc il y a des gens qui ont connu Colomiers-Lasplane, parmi ceux qui nous écoutent, sans doute.
Oui.
Voilà, donc François-Xavier Mescure de Lasplane, 19e siècle. Alors à l'époque, c'est encore vraiment un territoire, et un gros village très agricole.
Complètement.
Et il y a la vigne, bien sûr.
C'est de la vigne, c'est de l'élevage, c'est du maraîchage, l'horticulture, voilà. Qui bénéficie ici, de la proximité du marché toulousain, et ça va aussi s'améliorer avec le développement des transports, notamment le tramway qui arrive en 1913 à Coulommiers, qui va relier à la place Esquirol à Toulouse.
Alors ça, c'est le grand événement de la première moitié du XXe siècle, l'arrivée du tramway en 1913 à Coulommiers. On arrive à la Seconde Guerre mondiale, l'occupation, et là on va reparler du château de l'Armurier, parce que là il y a un fait vraiment historique avec des personnages extrêmement illustres, qui s'illustrent d'ailleurs à cette occasion. Qui sont-ils ?
Effectivement, on est en 1940, l'épouse de Raoul Massardi, propriétaire du château de l'Armurier, qui est René Massardi, était la fille d'Eugène Montel. Celui-ci était instituteur et leader du Parti socialiste dans le Narbonnais. Il est conseiller général depuis 1922. En 1929, à l'occasion du décès du député de Narbonne, il renonce à se présenter à la députation qui lui tendait les bras et va préférer laisser sa place à son ami Léon Blum, qui sera élu dès le premier tour. En 1935, Eugène Montel est élu conseiller municipal de Narbonne et il intégrera le cabinet de Léon Blum en juin 1936. Tout ça pour vous dire les liens qui les rapprochent. Lorsque la guerre éclate, Eugène Montel va se retirer chez son gendre au château de l'Armurier. Et au mois de juin 40, lors de la débâcle, Léon Blum et Vincent Auriol s'installent dans la demeure de l'Armurier. Tous trois furent arrêtés par la police de Vichy. Ainsi, le château de l'Armurier fut le théâtre d'un événement notable. Et c'est sans doute sa relation avec Léon Blum et ses accointances avec le monde socialiste, etc., qui va l'élever donc à sa place de maire de Colomiers. Et il sera le futur bâtisseur du Colomiers contemporain. Donc on est en 1945, lorsque Eugène Montel est élu. Et la ville se reconstruit après la guerre. La vie quotidienne se réorganise, tant bien que mal. La ville passera de 2000 à 3700 habitants en 1958. Mais les choses vont vite évoluer.
Ce qui fait en fait que la population augmente et que la ville se développe, c'est aussi l'arrivée tout simplement de l'aéronautique sur le territoire.
Ah oui. En fait, en 1937, c'est Blagnac qui est désigné pour accueillir l'aéroport. Va suivre l'arrivée des usines de Voitine en 1939 sur Saint-Martin-du-Touche, ce qui fait qu'on a une population ouvrière qui est à proximité et qui va avoir besoin de se loger, tout simplement. Donc Eugène Montel, accompagné de son adjoint Alex Raymond, alors qu'il est maire de Colomiers, vont répondre à une pression démographique par la poursuite de la modernisation et une politique d'équipement. Donc, l'électrification, le réseau d'assainissement, l'eau potable, les écoles, les routes, etc. Mais il est persuadé, Eugène Montel, que cette croissance anarchique ne mènera à rien de bon, sinon à une cité dortoir. Donc, dès le milieu des années 50, lui et son adjoint Alex Raymond ont l'intuition que le mouvement doit être anticipé, pensé globalement et maîtrisé. Donc, pour développer cette ville à cette époque, on va parler vraiment de la création d'une ville nouvelle. On part de rien, on part des vignes en fait. Ce projet va être confié au jeune urbaniste René Viguier. C'est son premier projet d'aménagement. Et ce projet est presque utopique. Donc là où il n'y a que des vignes et des embryons de construction, Viguier imagine une ville de 30 à 40 000 habitants. Je rappelle qu'on a tout juste 3 000 habitants à ce moment-là à Colomiers.
On a même dépassé les 40 000 habitants. Dernier recensement 2019.
41 086.
Voilà, ça y est, on y est. On a dépassé les 40 000 habitants. Est-ce que c'est un territoire, donc 2 000 hectares, Colomiers, qui est entièrement urbanisé ou est-ce qu'il reste quand même des espaces naturels, voire des exploitations agricoles ?
Alors, les anciens terrains agricoles ont été urbanisés au profit de la ville nouvelle et des zones industrielles. Il y a cependant de nombreux parcs, des squares, des espaces verts, des zones piétonnes qui ont été incluses dans le programme. On a le parc du Roc qui est en pleine ville, le parc du Cabirol. La piétonnisation a fait partie dès le début de ce projet d'urbanisation. On a des passerelles piétonnes qui enjambent des voies, des quatre voies en fait, qui sont des routes en ville,
oui.
À 50 à l'heure, mais quatre voies qui ressemblent à des autoroutes.
C'est une particularité de Colomiers.
Et donc Colomiers a prévu des traversées piétonnes au-dessus de ces grandes routes. Donc, je ne peux pas vous dire qu'il y a beaucoup d'espaces agricoles libres, ce n'est pas vrai. On a beaucoup urbanisé tout en pensant et logements sociaux, et zones industrielles, et administration.
En essayant de garder quelques poumons verts.
Et un peu de poumons verts, exactement, en centre-ville.
Combien il y a d'entreprises et d'emplois aujourd'hui sur la commune de Colomiers ?
Alors, Colomiers accueille plus de 1400 entreprises avec près de 20 000 emplois. Et l'économie est principalement liée, bah vous le savez, à l'industrie aéronautique.
Et la sous-traitance qui va avec.
Voilà, est à proximité.
Donc 20 000 emplois pour 41 000 habitants.
Voilà.
En gros, ça ressemble un peu à ce qui se passe à Blagnac. Et puis Colomiers, c'est aussi une ville qui a misé, en tout cas en partie, sur le culturel. Il y a des lieux très intéressants, notamment le pavillon blanc dont on a parlé en début d'émission.
Alors, le pavillon blanc Henri Molina. C'est une médiathèque et centre d'art de Colomiers qui est située sur la place Alex Raymond, le parvis de l'hôtel de ville. C'est une œuvre moderne de Rudy Ricciotti qui a aussi réalisé le pavillon noir d'Aix-en-Provence.
Il a fait le yin et le yang.
Ouvert en 2011, c'est un espace qui occupe 5830 m² et qui se constitue d'une coque de béton blanc de 150 m de long et 25 cm d'épaisseur sur 12,50 m de hauteur. Et les fenêtres ont la particularité, ou les ouvertures, d'être en forme de goutte. Donc ça donne un bâtiment assez original. Il y a un côté sur les quatre qui est complètement vitré, c'est la façade qui donne sur le parvis, qui est le lieu d'accueil du public. Et le bâtiment est divisé en deux étages, alors avec le rez-de-chaussée qui est consacré au centre d'art contemporain, accueil du public, atelier, et l'étage qui correspond à la médiathèque. En fait, le projet initial de la réalisation de ce pavillon blanc, c'était de rassembler les quatre bibliothèques municipales avec le centre d'art contemporain déjà existant dans un seul et même lieu. Et c'est un lieu hautement culturel puisqu'il organise en moyenne 3 expositions annuelles plus des événements associés comme on a cité tout à l'heure les festivals.
Puis un petit théâtre aussi, le Théâtre du Centre,
lieu
de résidence de la compagnie Paradis et Prouvette, bien connue dans le milieu théâtral toulousain. Nous sommes arrivés au terme de cette émission, il va donc falloir la conclure. Merci beaucoup Céline Gazelle d'avoir partagé avec les auditeurs de Radio Présence les connaissances et les anecdotes que vous dispensez habituellement à ceux qui participent à vos visites commentées de Colomiers. Je rappelle que c'est l'Office de Tourisme de Toulouse Métropole qui les organise. Je conseille donc aux personnes intéressées, parmi celles qui nous écoutent, de s'adresser à cet établissement pour se renseigner. Le site internet de l'Office de Tourisme est consultable en vous connectant à www.toulouse-tourisme.com. Après cette émission, je pense, et je ne suis certainement pas le seul, que Colomiers mérite d'être mieux connu et que la découverte de cette commune vaut bien une petite balade. Ce numéro de Métropolez-vous a été réalisé par Christophe Aubry. Il était animé par Éric Dupri. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour une autre émission. Et d'ici là, n'oubliez pas, Métropolez-vous bien.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.